Bonjour. Alors certains d'entre nous étaient ce matin à l'office des Laudes, donc dans notre levis des Besses, et ils ne le savent sans doute pas. Ils ont vu une statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de Pelvoisin, là, dans cette chapelle, à deux kilomètres d'ici. Et ils ont vu en fait la toute première statue qui a été réalisée de Marie, celle qui a été posée. D'abord dans le lieu des apparitions, elle y est restée plusieurs années. Elle y a été posée le 9 septembre 1877, lors du premier grand pèlerinage annuel. Et elle se trouve là-haut, au Besses, depuis un peu plus d'un siècle. Parce que ce lieu où nous vivons, les frères, et comme ça je vous présente aussi ce lieu, Pelvoisin, ce lieu où nous vivons, il est lié à ce qui s'est passé, à l'événement que je vous ai raconté rapidement hier et sur lequel je vais revenir, hein, cette expérience qu'Estelle Faguette a faite. Alors, je vais commencer par raconter une histoire. L'histoire d'un des frères de ma communauté. Il était un blessé de la vie, comme on dit, avec une enfance très difficile, marquée par de multiples épreuves. Et puis, il a rencontré le Christ. Il s'est converti au Christ, il a senti l'appel à lui donner sa vie comme religieux. Il est devenu prêtre alors qu'il ne l'aurait, il ne l'avait jamais envisagé, quoi, estimant que c'était pas possible pour lui. Puis il a été envoyé auprès de toxicomanes, en mission, c'était dans les années 80, milieu des années 80. Et c'était une mission éprouvante, et là, plusieurs d'entre eux, il allait au sein d'une grosse structure qui n'existe plus. Et là, souvent, ils lui ont dit « Mais tu fais quoi pour nous, quoi ? Tu viens nous annoncer Jésus, mais tu fais quoi pour nous ?» Et dans son cœur, il a eu l'inspiration de créer des lieux où des jeunes qui voudraient sortir de cet esclavage de l'addiction pourraient être accueillis par une communauté de frères, une communauté de religieux. Donc il a porté ça dans la prière, ensuite il l'a fait discerner, il a présenté ça à notre supérieur qui a dit « oui, je crois que ça vient de Dieu ». Alors tu vas lancer ça, mais faut trouver une maison. Alors comment trouver une maison ? Eh bien il a fait une neuvaine. Vous êtes à l'avant-dernier jour de votre neuvaine. Lui il a fait une neuvaine, je pense pas que c'était à Marie qu'il ait fait les nœuds, mais il a fait une neuvaine. Il est allé terminer sa neuvaine à Paris, dans la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Et en sortant de la chapelle, il rencontre quelqu'un qu'il connaît, et il lui dit l'intention qu'il est venu présenter à Marie, et la personne lui dit « moi je sais, il y a un endroit pour vous, c'est à Pelvoisin. C'est une maison où il y avait un orphelinat, et l'orphelinat a fermé. » Alors il a contacté les religieuses qui possédaient le lieu, et qui lui ont dit « on vous donne ». Pour la naissance de cette œuvre. C'était en 1987. Cette œuvre s'appelle Saint-Jean Espérance. Elle existe toujours. Elle vit toujours là, dans ce lieu, là où nous sommes, les frères. Et depuis 1987, des jeunes y sont reçus. Alors, ce frère, qui s'appelle Jean-Philippe, il est venu à Pelvoisin, mais pas du tout, du moins dans la perception qu'il en avait, c'était pas du tout lié aux apparitions. Mais de fait, ça l'était profondément, parce que ce site, les Besses, celles qui sont venues ce matin ont vu, c'est assez grand, ça a été créé au début du XXe siècle comme une succursale, j'allais dire, du sanctuaire. Une personne, une jeune femme, a voulu qu'il y ait là une œuvre. Au début, c'était une pouponnière, donc c'était pour des tout-petits, Ensuite, ça a été un préventorium, un lieu pour des enfants à la santé fragile, puis ensuite un orphelinat pendant des dizaines d'années. Mais l'intuition, c'était un lieu où la miséricorde maternelle soit exercée à l'égard des petits, des faibles de ce monde. Et c'est un concours de circonstances qui a fait que la toute première statue est montée là-haut. Comme vous voyez, comme une confirmation, quoi. Marie est venue rejoindre Estelle dans son parcours de vie, et oui, elle rejoint tous ceux qui sont petits. « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. » Elle répond à l'attente, l'espérance. Ouais. Ça nous marque, nous, les frères, hein, de dire comment nous sommes venus dans ce sanctuaire. De cette façon-là. Parce que c'est 11 années plus tard que l'évêque, bien sûr, il avait accepté que l'œuvre soit fondée, donc que des frères, une communauté de frères viennent vivre ici. Et puis c'est 11 années plus tard qu'il nous a dit, est-ce que vous pouvez aussi vous occuper du sanctuaire? Et de fait, il y a quand même beaucoup de liens entre ces jeunes que nous accueillons. Donc je vous demande de prier. Oui, je vous invite à prier pour Gaël, Thomas, Vincent, Adrien et Marco, qui sont reçus actuellement. Vous pouvez prier aussi pour Martin, qui nous a quittés il y a quelques mois. Il n'a pas arrivé à rentrer dans l'exigence de mise en vérité. Nous avons appris sa mort hier. Et puis, prier pour Philippe. Philippe, qui est un ancien, il a fait le parcours il y a une vingtaine d'années. Il est père de famille. Il a créé son entreprise. Et puis, je l'avais au téléphone il y a 2, 3 jours parce que, avec beaucoup d'humilité, il sait, oui, je suis toujours fragile et il prend des moyens pour tenir bon, quoi. L'espérance. Alors, oui, je dis tous ces parcours différents parce que, oui, on en reparlera cet après-midi, quoi. Quelle est cette guérison que le Seigneur veut opérer en nous? Qu'est-ce qu'il nous promet? Et ce matin, j'ai intitulé l'enseignement avec les premiers mots que Marie a demandé hein, à Estelle d'inscrire sur la plaque, l'ex voto, j'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Cette plaque, hein, la Vierge Marie a dit, tu la mettras pour publier ma gloire. C'est quoi la gloire de Marie? Ben, c'est que nous, nous l'invoquons. Temps en temps, je ne sais pas si ça vous arrive, on peut se dire, mais bon, demander, pourquoi je viens demander, hein, Dieu, il faudrait juste recevoir de lui. Hein, est-ce que je le dérange pas? Voilà que Marie nous dit, ben, quand tu m'invoques, tu me glorifies. N'hésite pas, demande. Il y a un saint qui est connu aussi pour son humour, son courage et sa finesse, c'est Thomas More. Vous connaissez saint Thomas More? Il y a. Alors, c'est lui qui avait demandé, hein, on connaît, bon, plusieurs d'entre nous sans doute connaissent cette prière pleine d'humour, Seigneur, donne-moi une bonne digestion, mais donne-moi aussi quelque chose à digérer. Voilà. La simplicité. Et on a de lui une lettre qu'il écrit à une de ses filles. Cette fille s'était adressée à son papa pour lui demander un peu une aide financière. Et Thomas More, il répond, et alors, il l'écrit avec beaucoup plus de talent là, que ce que je vais rapporter, mais il dit à sa fille, voilà, je t'envoie cette somme-là. Tu vois, c'est pas grand-chose. Mais parce que, en fait, tu demandes pas assez. Tu demandes en t'excusant, mais tu ne sais donc pas que la joie de mon cœur de père, c'est de te donner. Alors j'attends donc ta prochaine lettre et je te donnerai plus, bien volontiers. Mais demande. Demande. Cette attitude, vous voyez, très fondamentale de s'adresser à plus fort que nous, à quelqu'un qui peut nous venir en aide, qui implique l'humilité et aussi la confiance. Quand Marie a montré à Estelle ce qu'elle avait fait de bien, il y a ses bonnes actions, mais il y a aussi justement la prière, le fait d'ouvrir mon existence à l'aide, de ne pas vouloir être tout seul, et de porter cette confiance que je suis objet de bienveillance, que je suis objet d'un amour qui m'a précédé, et que celui, celle qui m'aime, eh bien, parce que l'amour implique cela, il souhaite donner. J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Et La lettre d'Estelle commence par ces mots, hein, ma bonne mère. Et juste après, vous n'avez pas oublié que je suis votre fille. C'est une des caractéristiques de ce qui s'est passé ici. C'est ce lien maternel et filial, cette relation. Il y a des moments où Marie va se présenter comme reine, comme celle qui enseigne. Ici, c'est vraiment la maman. Et Estelle, elle se situe comme une fille. Est-ce que nous pouvons dire à Marie, vous n'avez pas oublié que je suis votre fille ou que je suis votre fils? Sommes-nous ses enfants? Sommes-nous son fils, sa fille? Qu'est-ce qui nous permet de le dire en vérité? Je pense que ma relation avec Marie, elle a commencé avant même que je sois parlé, quand ma maman, ma propre maman, m'a appris à envoyer des baisers à une statue de la Vierge Marie. Et je lui en suis très reconnaissant. Et j'ai entendu, oui, ma maman, mon papa, je suis né dans une famille où il y avait la dévotion mariale, tous mes frères et sœurs et moi-même, nous portons comme un deuxième ou troisième prénom, celui de Marie. Et j'ai grandi avec ça. Ouais, quelle joie! C'est un cadeau. Marie, ma mère. Je vous invite, en préparant aussi votre lettre, en la mûrissant, à faire mémoire de cette relation que vous avez avec Marie. Souvenez-vous, souvenons-nous, rappelons-nous. Rappelle-toi, dit Marie à Estelle. Cette présence, les expériences que nous en avons fait, le sentiment, les signes qui nous en ont été donnés, ce que nous en avons découvert. C'est bon, hein, de nourrir, hein. On nourrit une relation aussi, hein, avec ses souvenirs. Pas comme une nostalgie, mais comme un tremplin, quoi. Ah oui, Marie, à cette place-là, j'ai cherché à lui donner, j'ai reçu cela d'elle, j'ai fait cela aussi. Et puis, nous faisons retraite ensemble. La salle est presque remplie. On a refusé du monde. Et nous faisons cette retraite avec, allez, dans la communion de toute l'Église. Hein. Hier, nous avons entendu des témoignages. Parce qu'il y avait le témoignage direct de Dominique, mais il y a ceux aussi dont il s'est fait le porte-parole. Hein. Et elle est si riche, l'histoire des saints, hein. Cette tradition de la proximité avec Marie, de ce sentiment filial. Il y a peut-être tel pèlerinage, tel moment de célébration où nous avons bénéficié, oui, ou goûté la présence de Marie, la façon dont des frères, des sœurs dans la foi nous engageaient vers elle. Et on sentait, et ils nous ont permis aussi de découvrir, de faire grandir en nous ce sentiment filial. Alors, il y a quelque chose qui est assez impressionnant. Hein. Elle avait dit « tous les âges me diront bienheureuse ». Elle l'avait dit, et non seulement tous les âges la disent bienheureuse, mais cette présence de Marie dans la foi, dans la vie de foi de l'Église, quoi. Il y a quelque chose de très spontané. Et il y a les créatures comme nous, hein. Il y a cette proximité qui s'exprime de façon parfois si audacieuse. C'est Padre Pio, hein, qui avait été témoin dans sa jeunesse de cet épisode. Il priait dans une église et il voit arriver une femme qui porte un enfant difforme, un bébé, quoi. Et elle ne sait pas que Padre Pio est là. Et elle va se mettre devant la statue de la Vierge et elle dit « Vous avez vu mon enfant, mais c'est pas possible d'avoir un enfant comme ça. » Et elle gronde la Sainte Vierge, quoi. « Faites quelque chose. » Et puis, l'enfant, il parle pas. Et puis, cette maman qui dit à Marie « Puisque c'est comme ça, je vous le laisse, quoi. » Elle le laisse, mais elle s'en va. Padre Pio voudrait intervenir, mais il se retient. Et à ce moment-là, l'enfant se met à pousser un cri, quoi. Et, vous voyez, il est guéri. Et la maman vient le reprendre et elle repart avec lui, quoi. Quelle audace! Avec qui avons-nous ces audaces-là, quoi? Et la simplicité. Ouais. Ça fait sourire et c'est bon, hein. Alors il y a tout cela. Et je suis sûr que on pourrait partager, passer des heures, hein, à partager ces histoires-là. Et le fait que Marie, notre mère, c'est encore plus que cela. Ah, je vais employer un mot qui est très souvent galvaudé, mais un mot qu'on trouve dans l'Écriture, dans l'Évangile, un mot très riche, c'est un mystère. Un mystère. Mystère, pour beaucoup, ça évoque quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Hein. En fait, dans l'Écriture, un mystère, c'est pas d'abord quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ah non. Non. Un mystère, c'est une réalité qui est divine, d'ordre divin. Et quand je dis d'ordre divin, ça veut dire quelque chose qui bien sûr est caché, qui échappe à mon expérience humaine, à ma connaissance naturelle, qui est plus grand que ce que je peux toucher, voir, entendre, comprendre par moi-même. Mais cette réalité, le mystère, et ça, c'est ça que signifie le mot mystère, cette réalité, elle se révèle, elle se dévoile, elle est cachée pour venir. Rien n'est caché qui ne doit être révélé, dit Jésus. Et elle se révèle et elle se communique. Alors, bien sûr, puisque c'est une réalité divine, je n'aurais jamais fini de la découvrir, de l'approfondir. Donc je ne comprends pas au sens où je ne saisis pas tout. Et c'est une lumière. Et puis, c'est une lumière pleine de chaleur, c'est quelque chose qui se donne, qui se communique. Que Marie soit notre mère, c'est un mystère, parce que c'est une volonté de Jésus. Je dis cela à cause de cet épisode que nous connaissons bien, rapporté par l'évangéliste Jean au moment de la mort de Jésus. Il y a une parole de Jésus adressée à Marie et une adressée aux disciples. Le disciple qui va la prendre chez lui. Et cette parole, voici ta mère, Jésus dit aux disciples, dit à sa mère, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Où est-ce qu'il se tenait, le disciple? Il se tenait près de Marie. Avant même que Jésus ait parlé, il se tient près de Marie, comme nous le faisons. Comme ce que je viens de rapporter, il y a quelque chose de si naturel, quoi, pour l'homme qui accueille le message de la foi, de se tenir près d'elle, parce que nous pressentons que c'est bien de se tenir près d'elle, et spécialement dans le moment difficile. Il a déjà cette qualité, ce disciple que Jésus aimait. Il se désigne ainsi pour que nous ayons tous le désir de prendre, c'est-à-dire d'être à sa place, quoi. Il n'a pas de nom pour avoir tous nos noms, hein. Le disciple que Jésus aimait, qui révèle à travers sa figure ce que Jésus aime voir chez ses disciples, eh bien se tenir près de Marie, comme nous le faisons. Il se tient près d'elle. Il y a comme une proximité. Il y a une proximité. Et Jésus dit à Marie, voici ton fils, puis elle dit aux disciples, voici ta mère. Et on nous dit, à partir de cette heure-là, il l'a pris chez lui. Et il la reçoit de Jésus. Voilà. Bon, les mots sont très simples, mais une invitation que Jésus nous adresse. Il nous dit quelque chose. Il nous dit, voici ta mère. Et il y a cette réponse du disciple. Il n'y a pas eu d'ordre hein, de la part de Jésus. Jésus lui dit juste « Allez là, et allez ta mère. » Et le disciple, il la prend chez lui. La prendre chez nous, qu'est-ce que cela veut dire hein? Et chez nous, chez lui, ça traduit dans ce qu'il y a, dans son intérieur, dans ce qu'il est, dans son existence, au creux de sa vie, hein, au cœur, au creux, plutôt au cœur de tout ce qu'il porte, hein, au plus intime, et en même temps dans tout. Nous le savons, hein, nous n'aurons jamais fini hein, de poser cet acte. Ma bonne mère, vous n'avez pas oublié que je suis votre fille, que je suis votre fils. Et moi, je ne veux pas l'oublier. Je dis ça aussi parce que il y a ce moment qui me fait un peu sourire quand je le raconte. Hein. Estelle voit le diable. Qui de nous a déjà vu le diable ? Non, pardon, c'était... Et elle est effrayée. Et on peut comprendre, quoi. Et quand Marie a fait partir le diable en lui disant qu'il n'a rien à faire ici, elle dit à Estelle, mais ne crains rien, tu sais bien que tu es ma fille. Vous voyez ? Comme on dirait à quelqu'un, ouais, j'ai quelqu'un que je connais qui a peur des araignées, quoi. De temps en temps, je lui dis, mais n'aie pas peur, quoi. C'est de toi que l'araignée a peur. Ah ouais, mais le diable, quoi. Ne crains rien, Marie, t'en as de bonnes, quoi. De me dire de ne pas craindre. Mais le mal, c'est terrible. Et pourtant, elle dit ça. Tu sais bien que tu es ma fille, quoi. Tu le sais bien. Et le cheminement que je vous ai exposé hier et sur lequel je vais revenir montre qu'Estelle, elle le savait, mais qu'elle ne le savait pas encore. À la fois, elle le savait, mais elle ne le savait pas encore tout à fait. Et c'est vrai pour nous. Nous savons. Mais nous avons encore tellement à apprendre. Et comment apprendre ? Ah ben, c'est pas du théorique, c'est l'apprendre chez nous. Sur l'ex voto, Marie a donc voulu aussi que Estelle fasse apparaître l'image de son cœur. Son cœur compatissant et immaculé. Et Estelle parle de ce cœur quand elle décrit la vision qu'elle, hein, à partir de laquelle on a réalisé l'image. Elle dit « Il est enflammé et il est transpercé par une épée. » C'est ainsi hein, qu'on le reconnaît. Et bien sûr, c'est la référence à la pré-prophétie que Marie a entendue de Siméon le jour où Joseph et elle ont porté Jésus au temple quand il avait 40 jours. Ton âme sera transpercée comme par une épée. Tu sais bien que tu es ma fille. C'est au moment de l'épreuve que Marie entend de la part de Jésus, voici ton fils. Au moment de l'épreuve, quand elle se tenait là, au pied de la croix, elle se tenait. J'aime l'Écriture sainte et l'Évangile. Vous savez que dans l'Évangile, quand les disciples nous rapportent cette scène, hein, et qu'il dit que Marie se tenait au pied de la croix, il dit pas qu'elle se tenait toute seule. Il dit qu'elle se tenait avec d'autres femmes. Et d'ailleurs, le verbe est au pluriel. On ne nous dit pas « Marie se tenait elle seule ». On nous dit « Ces femmes-là se tenaient, Marie et les autres ». C'est un petit détail, mais qui me dit quelque chose. Parce que, wesh, de temps en temps, j'ai entendu des paroles sur Marie qui semblait presque gommer sa vulnérabilité. Pour l'exalter, elle est la solide, elle est la seule qui se tient. Elle se tient aussi avec ses autres femmes. Elles se soutiennent. Son fils lui-même, sur le chemin de la croix, a reçu l'aide de Simon de Cyrène. elle est fragile. Et c'est aussi sa grandeur de se tenir avec ses autres femmes dans la foi. Oui, un jour, c'est une parole qui a compté pour moi, quelqu'un qui me dit « Vous allez rencontrer cette personne, vous allez voir, elle est extrêmement sensible, toute vulnérable et fragile. » Et il ajoute « Exactement comme on imagine la Vierge Marie. » Ça m'a converti. Parce que moi, j'avais un peu une image d'Épinal, de Marie, même pas peur, hein, vous savez l'expression. Non, même pas peur. Elle est là, vulnérable. Solide, oui, mais comme un saint Paul nous le dit, je me glorifie dans mes faiblesses, car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Si saint Paul l'a écrit, c'est plus vrai de lui, hein, c'est encore plus vrai de Marie. Elle est faible dans cette force. Elle est forte dans la faiblesse, parce que elle est forte de cette grâce à laquelle elle ouvre sa faiblesse, sa vulnérabilité, son cœur transpercé. La veille de sa mort, hein, quand il enseigne ses disciples, c'est au chapitre 16 de l'évangile de Jean, Jésus emploie l'image de la femme qui enfante. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage ? La femme qui enfante. Il parle à une communauté d'hommes, hein, a priori du moins. On ne nous dit pas qu'il y a des femmes, mais pour parler de ce qu'ils vont affronter, et la communauté de ses disciples, et l'Église, il emploie cette image-là. Et je vais vous lire ça. Donc au chapitre 16, je commence le verset 19. C'est très proche de la fin de l'enseignement de Jésus qui nous est rapporté depuis le chapitre 13, hein, jusque justement à la fin du chapitre 16, avant que Jésus prie devant nous. Et Jésus dit, un peu de temps et vous ne m'apercevrez pas, puis encore un peu et vous me verrez. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et que vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez, vous, attristés, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction, dans la joie de ce qu'un homme est né au monde. Vous donc aussi, maintenant, vous avez de la tristesse, mais de nouveau je vous verrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Jésus parle d'une femme qui enfante. Notre pays meurt, hein, paraît-il, parce qu'il n'y a pas d'enfants. C'est quand même un signe inquiétant, hein, quand dans l'humanité disparaît ce désir, hein, d'engendrer, de donner la vie. De lancer cette aventure-là, de coopérer à l'œuvre du Créateur. Quelque chose de si grand, la fécondité. Alors, c'est un célibataire qui vous parle. Mais qui justement, doit porter en lui l'appel et se dire « Le Seigneur rend ma vie féconde autrement, mais il y a l'appel à ce que nos vies portent du fruit. » Et y compris, oui, ce fruit-là, Dieu l'a voulu dès l'origine. C'est si grand. Dans le livre de l'Apocalypse, quand le voyant, à nouveau Jean, hein, aperçoit cette femme, hein, qui enfante, hein, c'est l'image de l'humanité, et de l'humanité telle que Dieu la voit, c'est-à-dire appelée à coopérer pour que naisse, pour que la vie soit donnée. Notre Dieu est fécond. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Et il appelle à la fécondité. Et voilà que, eh ben voilà, au pied de la croix, l'heure de Marie est arrivée. C'est l'heure de son fils et c'est son heure au ciel. Et c'est à partir de cette heure-là que le disciple a pris chez lui. L'heure de l'enfantement. Elle a enfanté à Jésus, à Noël, dans la joie, sans douleur. Une naissance virginale. Mais sur la montagne du Golgotha, au vu et au su de tout le monde, elle engendre dans la peine. Et la promesse de Jésus est si précise. Vous serez triste et votre tristesse se changera en joie. Il ne dit pas « Votre tristesse cédera à la joie, sera remplacée par la joie. » Il parle d'un changement. Et c'est quelque chose de, je pense, qui peut nous éclairer. Qu'est-ce qui vous rend triste? L'image, c'est de dire « L'heure est venue. » Il y a un moment d'épreuve, mais la raison, c'est que l'enfant va naître. Et votre tristesse se changera en joie. C'est un moment d'enfantement. Alors, pour eux, c'est très concret, hein. Vous allez être triste parce que vous ne me reverrez plus. Donc, vous allez être triste parce que vous m'aimez. Et donc, ce qui m'arrive va vous affecter. Et vous allez être triste de ma mort. Et c'est en raison même de cette tristesse que je pourrais me manifester à vous. Il nous est dit, hein, que Jésus apparaît à ceux qui le pleuraient. De fait, le ressuscité n'apparaît qu'à ceux qui pleurent sa mort, pas aux autres. Parce que la joie qu'il va offrir et la joie que nul ne peut nous ravir, elle est le fruit d'un amour pour lui. Et c'est d'abord vrai pour sa mère. Et quand il vient, il revient, il engendre, il est celui qui donne la vie. Marie, nous l'invoquons en nous tenant près d'elle dans ces moments-là. Estelle vous a exposé cette situation au plus fort de sa misère. Je ne suis pas actuellement dans la situation où était Estelle, extrême mourante. Hein. Mais c'est une invitation à présenter à Marie les lieux d'épreuve et en acceptant, en étant réconforté par elle pour pouvoir dire, de fait, je me glorifie dans les faiblesses. Pas chercher à lui présenter mes bons côtés. Non, ce qu'il y a d'épreuve. Lui permettre de visiter le plus fort, au plus fort de ma misère, et de me visiter vraiment. Un cœur transpercé, un cœur compatissant. À une maman, et on vient présenter ses blessures. Car on ne craint rien de lui montrer ses blessures. On ne les montre pas à tout le monde, hein, parce que certains, nous le savons, pourraient en profiter. Nous savons qu'une maman, c'est sa chair elle-même qui est blessée, hein, quand son enfant est malade. Alors il vient. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a deux mots qui signifient la miséricorde, que l'on traduit par miséricorde. Les deux, ils disent quelque chose de ce qu'est la miséricorde. Et l'un, sa racine, c'est les entrailles, le fruit de vos entrailles. Un de ces mots-là, qui dit, qui est traduit par miséricorde, il fait référence aux entrailles de la mère. Et il dit justement cette proximité, cette compassion, celle qui est atteinte dans sa chair. C'est Saint Jean-Paul II qui, dans l'encyclique qu'il a consacrée à la miséricorde, nous rappelle cela. Et l'autre mot, Jean-Paul II dit le côté plus masculin, paternel, c'est la solidité de l'amour qui tient. Qui tient, même si on vient l'éprouver. Hein? Même si, on pense à des situations très concrètes. Hein, ouais. Quelqu'un vient dire, mais est-ce que vraiment tu m'aimes? Et il va montrer un peu d'opposition pour savoir si on tient, si on est fidèle. Le cœur transpercé, celle qui compatit. Et puis, ce cœur que Estelle a vu et qu'elle a fait reproduire, alors il n'est pas comme vous le voyez maintenant, parce que là, il a noirci. Mais il était en or. C'est le cœur immaculé de Marie. C'est ça que signifie le fait qu'il soit en or. Le cœur de Jésus, c'est rouge champ. Le cœur immaculé de Marie. La grâce de l'Immaculée Conception. Celle qui s'est présentée ainsi à Bernadette. Hein. Je suis l'Immaculée Conception. C'est devant une statue de Notre-Dame de Lourdes que Estelle avait fait mettre sa statue, sa lettre. Marie Immaculée. Est-ce que cela la met plus proche de nous? Le prêtre que je suis entend, de temps en temps, des personnes, quand on discute sur leur vie, sur ce qu'elles ont à vivre, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais moi, je ne suis pas Jésus. Ah oui, moi, je ne suis pas Marie. » Et quand on donne l'exemple de Marie, « Oui, elle a fait ça. Oui, mais moi, je ne suis pas Marie. » Ou Jésus qui pardonne « Oui, mais moi, je ne suis pas Jésus. » Je comprends parce que nous avons conscience de notre péché. Mais en même temps, si cette réaction spontanée a quelque chose de légitime, ouais, elle pourrait avoir quelque chose d'un peu désespérant. Parce que Jésus nous invite à le suivre et il nous fait cette promesse que nous serons comme lui. Et puis, quand on l'entend de temps en temps, oui, ça paraît comme si on n'est pas dans la même catégorie, quoi. Hein. Donc, elle a eu un privilège et donc ça la met plus loin de nous. Là, c'est. Oui, il y a un lieu de conversion. L'Immaculée est celle qui est le plus proche de moi, précisément parce qu'elle est immaculée. Pourquoi? Parce que son cœur, n'ayant aucune complicité avec le péché, et surtout son cœur, totalement sous la motion de l'Esprit Saint, son cœur peut m'accueillir tel que Dieu m'accueille. Un cœur pur qui voit Dieu. Un cœur pur qui voit la réalité, la vraie, qui au-delà des apparences, voit ce qui je suis. Vous savez, il y a une expression que l'on emploie souvent et qui est très belle, qui dit « Dieu nous aime tel que nous sommes ». Vous l'avez déjà entendu? Vous le croyez? Aime-moi tel que tu es aussi. Alors, ça c'est « Aime-moi tel que tu es », mais il nous aime tel que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire, tel que nous sommes? Ah ben oui, avec toutes nos épreuves, tous nos défauts, mais de temps en temps je me demande « Mais qui je suis ?» Qu'est-ce que ça veut dire « tel que nous sommes » ? Parce que il m'a aimé tel que j'étais quand j'étais enfant, il m'aime maintenant tel que je suis. Je suis comment ? Et Dieu est éternel. Alors, moi, je varie, donc son amour pour moi varie. Alors, on vacille un petit peu hein, quand on est devant l'éternité, quand on parle de l'éternité, et qu'il ne faut surtout pas imaginer comme une durée hein, sans fin. Ce n'est pas d'abord de l'ordre de la durée. Dieu m'aime tel que je suis, ça veut dire. Il m'aime tel que je suis dans son regard éternel. Il m'aime tel que je suis dans la gloire dont il me fera vivre au ciel. Le regard de Dieu sur nous. Alors son amour m'accompagne à chaque jour, à chaque moment. Et précisément, comme ça peut être bon, justement, de recevoir ce regard qui, alors même que je fais l'expérience de mes défauts, de ce péché qui me colle à la peau, de ses conséquences, de recevoir ce regard qui me dit « Mais ce que tu es, c'est mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Ce que tu es, c'est cet enfant que je vais serrer sur mon cœur de père et qui va me glorifier et qui me glorifie quand il vit de ma vie et qu'il donne la vie à son tour. » L'Immaculée Conception de Marie, c'est aussi, hein, ça participe à ce signe d'espérance. Je vous ai parlé de la vision, hein, la femme que Jean voit dans le ciel, qui dit l'humanité, mais qui dit Marie, justement. Il nous veut saint et immaculé en sa présence, dans l'amour. En elle resplendit la promesse de Dieu. Et quand je dis la promesse, ça veut dire la réalité. Non encore réalisée, mais plus sûr même que ce dont j'ai l'expérience, quand je me mets dans la foi. Le cœur immaculé de Marie. Dans ce cœur, nous pouvons accéder à la vérité sur notre être, chacun de nous. Et la vérité, c'est le projet de Dieu sur chacun, sa vocation. J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère, et je l'ai invoquée comme une fille qui s'adresse à sa mère. Et Marie dit à Estelle, elle a touché mon cœur de mère, ta petite lettre, je l'ai montrée à mon fils. Donc Marie fait référence explicite à cette lettre d'Estelle, et il y a aussi quelque chose qui est très touchant, c'est qu'elle reprend dans les apparitions des éléments de langage d'Estelle. De la lettre, les expressions et autres. Cet après-midi, je vous parlerai d'un moment où elle reprend tout en corrigeant. Mais c'est très touchant. Vous voyez, quand un enfant vient nous apporter un dessin, vous avez souvent dit « c'est très beau ». Vous l'avez demandé, lui avez demandé ce que ça voulait dire, mais vous l'avez accueilli dans l'élan. Et vous vous servez de cet élan-là. Vous le rejoignez tel qu'il vient, avec ce qu'il vous présente, là maintenant. Estelle écrit une lettre, elle tend la main à Marie à travers, en lui ouvrant sa situation. Et Marie entre dans cette situation. Elle vient habiter cette situation en prenant, comme j'allais dire, le point de vue d'Estelle. Cette proximité, elle se manifeste de cette façon-là. Elle vient. Et puis je voulais à exposer rapidement, et j'y reviendrai aussi cet après-midi, en se saisissant d'Estelle, elle va la conduire plus loin. Et là, ce mouvement me fait penser à quelque chose, une promesse que Jésus fait dans l'Évangile, que j'ai réentendue il y a 3 semaines dans un mariage que je célébrais. Les époux avaient choisi comme texte cette parole de Jésus au chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu. « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose à mon Père, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » C'est assez original pour une messe de mariage. Mais en plus, deux ou trois, ouais, quand deux, ah oui. Bah, ils sont deux, mais ils espéraient trois, puis peut-être quatre, cinq, six, ouais, finalement. Quand deux d'entre vous s'accordent, quand nous nous tournons vers Marie, eh bien, deux s'accordent. Marie s'accorde avec nous et nous nous accordons avec elle. Ah ben oui, c'est bien de s'accorder avec elle. Hein. Avec qui je vais m'accorder pour demander à Jésus? Eh bien, s'accorder avec elle. Et lui écrire, et lui présenter, et venir avec cette simplicité d'enfant, c'est lui manifester cela. Viens, je choisis, je t'ouvre ce qui est à moi, et cette situation-là. Et avec mes mots tels que je peux le dire aujourd'hui, avec mon désir tel qu'il sort de mon cœur, avec mes interrogations peut-être aussi, mais... Ah oui, comment dire, oui, mais question à Dieu, hein. Je parle pas la révolte, mais là, vraiment la question, quoi. On voit Estelle qui dit, mais votre fils sait, quoi, ce que j'ai fait. On sent la question, mais pourquoi? C'était ma vocation de m'occuper de mes parents, quoi. Et ça va s'arrêter. Oui, Marie, je viens présenter ça. Et en plus, mais vous savez, vous, ce que c'est que de voir mourir un enfant? Elle l'écrit dans sa lettre. Vous vous souvenez ce que vous avez souffert? Et Marie va lui dire, ça, ça m'a spécialement touché. Je m'accorde à toi. Et ma situation, je la mets près de la tienne. Et je m'accorde pour demander. Et donc, je suis prêt aussi à ce que, eh bien, que tu m'apprennes à demander, parce que je sais que tu demandes mieux que moi, toi, ma mère. Je sais qu'auprès de toi, j'apprendrai cette docilité que tu as demandé au serviteur à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira, parce que bah, tu es la première en chemin. Sur le chemin de la foi. Vous voyez, à Cana, hein, Jésus donne à Marie une réponse déconcertante. Hein. Quand elle vient lui dire, ils n'ont plus de vin. Et rien que ça, d'ailleurs. Hein. Ah oui, qu'est-ce que fait Marie? Elle dit à Jésus, non pas ce qu'il doit faire, mais le besoin. Nous accorder avec elle, c'est aussi dire la situation. Parce que nous avons des tas d'idées sur la solution hein, que Dieu pourrait apporter. Dieu, tu pourrais faire ça, ceci, comme si, voilà. Marie, elle ne dit pas à Jésus ce qu'il doit faire. Elle lui dit le besoin. Voilà la situation, très objectivement. Et la réponse de Jésus, nous le savons, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Mon heure n'est pas encore revenue. Oh, c'est Marie l'épouse hein, dans ce passage de l'Évangile. Parce qu'on nous parle de noces, et la seule femme dont il est question, c'est elle. Et Jésus l'appelle précisément femme. Celle qui coopère avec l'époux. Celle qui lui présente. Et elle est femme dans la foi. Et elle nous parle de ce qu'est l'Église. Cette église hein, que Jésus fait naître par le don de sa vie. Alors, elle présente. Elle reçoit de Jésus cette réponse qui peut sembler déconcertante et elle dispose les serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. S'accorder avec elle, c'est aussi l'entendre nous dire cela. Et vous savez, pour Estelle, hein, vous rappelez, c'était très concret. Mon fils va se laisser toucher, tu souffriras 5 jours en l'honneur de tes 5 plaies, samedi tu seras morte ou guérie. Ah bon? Tout ce qu'il me dira, ça peut être une bonne nouvelle. Il peut me dire cela? Ah oui, Marie prépare à Estelle pour qu'elle soit prête à entendre cela. Si deux d'entre vous s'accordent, ils l'obtiendront. Il y a vraiment cette promesse. Je suis là au milieu d'eux. Et il est celui qui réalise hein, cette alliance. Voilà. Eh ben, ça suffit pour ce matin.
Pouvez-vous poser une question, Hubert, si je n'ai pas écrit le papier.
Oui.
Vous dites tout à l'heure que l'éternité, c'est différent de la durée. À peu près ça, vous avez dit.
Oui. Je disais que pour approcher ce qu'est l'éternité, il ne faut pas penser en termes de durée. Parce que la durée dit le passé, le présent, le futur. Donc, dit une succession. La chose n'est pas tout donné. Tandis que Dieu, quand on dit qu'il est éternel, veut dire qu'il n'est que présent. Il n'y a pas de passé pour lui, il n'y a pas de futur. Alors, c'est inimaginable pour nous. C'est vrai, ça sort de notre imaginaire. Mais dans notre expérience du temps, hein, les Grecs avaient utilisé deux mots. Il y avait chronos et kairos. Ça fait, vous avez peut-être sûrement entendu déjà parler de ça. Hein. Chronos, hein, dans la mythologie, c'est celui qui mange ses enfants. Chronos, c'est le temps qui dure. C'est le temps qui nous use. Hein. C'est ce qu'il peut y avoir d'éprouvant dans le temps. Quoi. Ouais, tu construis une maison et elle n'est pas finie de bâtir que déjà elle commence à s'abîmer. Quoi. Et puis, ah oui, quand est-ce que ça va venir? Kairos, c'est l'instant. Et dans nos vies, il y a des moments de plénitude. Et c'est plus, c'est pour cela que je disais, l'éternité, Dieu est éternel. Et purifions-nous de, justement, la durée liée à passé, présent, futur. Et c'est tout autre. Dieu est Dieu et nous ne sommes pas. Parce que sinon, hein, vous avez entendu peut-être cet adage, hein, l'éternité c'est très long, surtout vers la fin. Et voilà. Mais ça, c'est pas juste. Parce que justement, c'est pas long. L'éternité, c'est intense. Ça ne finit jamais. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une plénitude de vie. Et que la vie, c'est la vie. Et c'est pas la mort, quoi.